appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Parole aux auditeurs, votre magazine d'échanges citoyens sur Radio Okapi, la fréquence de la paix. Le 5 juin de chaque année, le monde célèbre la Journée mondiale de l'environnement qui vise à sensibiliser tout le monde sur les questions essentielles de la protection de l'environnement et ses conséquences sur la qualité de vie des populations ainsi que la survie de notre planète. Cette célébration intervient dans un contexte particulier avec le retrait des États-Unis d'Amérique de l'accord de Paris sur le climat dont l'objectif est la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, quelle réflexion faire à cette occasion sur la situation de l'environnement en République démocratique du Congo? Participez à ces débats à l'adresse pa@radiocapi.net. Rejoignez-nous et appelez-nous au 09 97 06 49 69 ou bien au 09 97 06 63 80 pour votre intervention en direct. Toute l'équipe de production est là pour vous tenir compagnie. Pierrot Elameji, Nico Kalambay et Paul Badianyama concourent à la réalisation de ce programme supervisé par Martin Sebujangwe et coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Du point de vue écologique, l'environnement, c'est le cadre de vie qui assure la santé, l'alimentation, les ressources et l'emploi. De ce fait, l'environnement des qualités est nécessaire à la satisfaction des besoins humains. Qu'en est-il alors de la situation environnementale en RDC? Nous en parlons donc, comme je l'ai dit, avec notre invité qui est déjà dans ce studio, Monsieur Tosi Panou, qui est avec nous. Bonjour Monsieur Tosi. Voilà. Alors, vous êtes négociateur en chef pour la Convention climat des Nations Unies et membre du conseil d'administration du Fonds vert sur les climats. Et une fois encore, bonjour et bienvenue dans cette émission pour échanger de manière citoyenne avec les auditeurs. Mais d'entrée de jeu, est-ce les retraits des États-Unis en ce qui concerne de l'accord sur les climats, donc l'accord sur les climats, est une surprise?
Écoutez, Monsieur Trump avait dit pendant la campagne électorale déjà qu'il n'était pas partie prenante de cet accord, qu'il voyait comme un accord qui obérait les intérêts économiques des États-Unis. Donc ce n'est pas une surprise de le voir en fait s'inscrire dans le sens de ce qu'il nous avait déjà annoncé. Et je crois que c'est dans la perspective de justement l'élection américaine que plusieurs pays avaient initié une forte dynamique pour pouvoir nous assurer que il y aurait une masse critique de ratification qui serait faite avant cette élection afin d'assurer que l'accord de Paris entrerait en vigueur avant justement que la nouvelle administration ne soit en place. Et donc l'année dernière, en 2016, le 4 novembre, l'accord de Paris est entré en vigueur parce que plus de 55 partis l'avaient ratifié. Et ces 55 parties représentaient plus de 55% des émissions globales.
Dont la RDC.
La RDC a signé l'accord de Paris. Le président Kabila l'a fait donc le 16 avril l'année dernière à New York. Mais malheureusement, le Parlement de la RDC ne l'a pas encore ratifié. Et je pense que cette question va certainement être inscrite à l'ordre du jour des sessions à venir.
Les attentes des Congolais, c'était autour des fonds verts pour le climat. Parce que la RDC, en fait, était comptée parmi les grands bénéficiaires de ces fonds verts. Quel sera l'impact au fait de ces retraits des Américains de cet accord?
Écoutez,
pour la RDC,
l'impact de ce retrait, c'est d'abord que des 10 milliards de dollars d'engagement que les pays développés avaient pris pour pouvoir remplir donc le fonds vert, les États-Unis avaient initialement, donc l'administration Obama s'était engagée pour 3 milliards.
Donc 30%.
Voilà, 30% des 10%. Mmh. En sachant que 10 milliards de dollars n'est pas en adéquation avec les besoins véritables de l'action climatique. Donc avant de quitter la Maison Blanche, le président Obama a versé 1 milliard de dollars. En promettant que les 2 milliards allaient suivre. Maintenant que le président Trump se retire, donc de l'accord de Paris, il y a fort à parier que ces 2 milliards ne viendront pas. Donc, on peut donc estimer que l'argent qui devait donc être dans ce fonds vert, 20% de cet argent va faire défaut. Donc cela va appeler certainement un sursaut de la part des autres pays développés afin de pouvoir combler ce déficit. Donc la RDC aujourd'hui peut, en tant que pays en développement, étant victime d'un changement climatique qu'elle n'a pas créé, peut normalement accéder à ces financements du fonds vert qui, pour l'instant, donc, il y aura donc 20% des engagements qui ne vont pas être remplis, en espérant que d'autres pays pourront faire montre de leadership. Et pas seulement les pays développés, en fait, parce que certains pays en développement aujourd'hui, comme la Chine ou l'Inde ou le Brésil, dans le cadre de la coopération Sud-Sud, contribuent également à financer donc l'action climatique, même si ces pays n'ont pas de responsabilité historique qui les oblige à le faire.
Alors, ces fonds verts devaient servir à la RDC, par exemple, pour relever quel genre de défis environnementaux?
Écoutez, le fonds vert a quatre axes principaux en termes d'atténuation. Il y a donc les énergies, donc sur deux volets, les énergies renouvelables, et on sait que la RDC est un paradis pour les énergies renouvelables, avec un potentiel estimé à plus de 100 000 mégawatts, dont plus de 44 000 pour le seul site de Inga. Donc les énergies renouvelables ou l'efficacité énergétique. C'est-à-dire que certains pays ont un accès important à des sources d'énergie, mais ces énergies sont polluantes. Donc le fonds vert peut aider à décarboniser le mix énergétique de ces pays. Donc premier axe, l'énergie, donc l'énergie renouvelable ou l'efficacité énergétique. Deuxième axe, les forêts. Et on sait que notre pays regorge de plus de 160 millions d'hectares de forêts. Et en fait, la déforestation représente environ 20% des émissions globales de gaz à effet de serre. Et nous disons toujours lorsque nous allons dans ces forats au niveau international, que 20% de problèmes pourraient constituer 20% de la solution. Donc pour nous, la forêt congolaise peut contribuer à stabiliser le climat mondial. Et donc il nous faut mettre tout en œuvre pour pouvoir protéger cette forêt et la gérer de manière durable. Troisième axe pour l'atténuation, donc au niveau du fonds vert, c'est le secteur des transports. Et nous savons aujourd'hui, par exemple, à Kinshasa, une ville de 12 millions d'habitants, que la circulation est intense. Si jamais nous pouvions rationaliser ce secteur au niveau de Kinshasa ou des autres villes du pays ou de l'étendue du pays, on pourrait, par exemple, nous assurer qu'on pourrait mieux développer les transports de masse à travers, par exemple, des trains, à travers, pourquoi pas, des métros, puisque cela a été fait chez nos amis éthiopiens. Si jamais on rationalise le secteur donc des transports, on peut également réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et le fonds vert peut également financer cela. Quatrième axe pour l'atténuation au niveau du fonds vert, c'est tout ce qui est environnement bâti, c'est-à-dire les villes, les infrastructures, les industries. Donc le fonds vert peut aider les pays à avoir des modes de production, des modes de construction qui soient plus sobres en carbone. Donc voilà les quatre axes au niveau de l'atténuation. Mais le fonds vert peut également financer les besoins d'adaptation, c'est-à-dire lorsque un pays est soumis donc aux effets néfastes du changement climatique, il faut qu'il puisse s'adapter. C'est-à-dire, par exemple, nous avons une trentaine de kilomètres de côte au niveau de Mwanda. Il y a aujourd'hui une hausse du niveau de la mer qui crée des dégâts. Donc le fonds vert peut nous aider, par exemple, à faire face à ce problème, ainsi que d'autres problèmes. Je lisais par exemple récemment dans la presse que au Burundi, un pays voisin, il y a une forte hausse de la prévalence de la malaria. Et cela n'est pas dû simplement à un problème saisonnier, mais à de véritables mutations importantes liées au changement climatique. Et donc également, comme c'est un pays limitrophe, je présume que la RDC également peut être frappée par cela. Donc le fonds vert peut aider un pays à faire face aux effets néfastes du changement climatique et donc à s'adapter à ces effets néfastes.
Alors juste une question de curiosité qui va d'ailleurs ouvrir les débats parce que je vois déjà beaucoup d'auditeurs sont arrivés en ligne et attendent débattre avec nous. Est-ce que vous partagez l'avis, monsieur Tossi, qu'aujourd'hui la protection de l'environnement en RDC ou le mécanisme de protection de l'environnement en RDC pose encore un problème et sans être contredit, on peut dire clairement qu'il est réel. Cette protection, elle est déficitaire.
Écoutez, je pense
que... Parce que quand vous parlez des forêts, de l'énergie renouvelable ou encore de l'environnement bâti, on se rend compte que là, sa protection, elle est déficitaire.
Quelle devrait être la priorité des priorités en RDC? Vous me direz, ah, la sécurité. Quelqu'un d'autre me dira, ah, ce sont les élections. Quelqu'un d'autre me dira, non, ce sont les infrastructures. Quelqu'un d'autre me dira, non, c'est l'emploi. Quelqu'un d'autre me dira, c'est l'éducation. Quelqu'un d'autre me dira, non, c'est la santé. Quelqu'un d'autre dira, oui, c'est l'environnement. Donc vous voyez, il y a des défis multiples et il n'est pas évident de pouvoir faire les arbitrages nécessaires pour pouvoir allouer à un secteur beaucoup plus de ressources que d'autres. Moi, je pense que l'environnement, au niveau de la RDC en tout cas, au niveau politique le plus élevé, il y a un véritable ancrage de la priorité que représente cette question et le gouvernement, en tout cas, y accorde les ressources qu'il peut. Et il y a également beaucoup d'axes de coopération bilatérale, multilatérale, qui font que ce secteur est l'un des secteurs qui reçoit énormément de financement.
Mais on a senti que ces derniers temps, il y a eu quand même des avancées normatives. Il y a eu beaucoup de textes qui, au fait, protègent le secteur de l'environnement, mais on se rend compte que le résultat, il n'est pas celui escompté. Qu'est-ce qu'il reste encore à faire?
C'est ça. Comme on dit, parfois, il y a loin de la coupe aux lèvres. Donc, entre ce qu'il y a sur papier et ce qu'il faut mettre en œuvre, parfois, effectivement, les choses ne suivent pas. Mais je suis persuadé que c'était important de déjà jeter les bases d'un cadre législatif, d'un cadre de mise en œuvre, qui pourra nous permettre de bâtir la crédibilité nécessaire au niveau international pour drainer les ressources qui nous manquent. Et par exemple, aujourd'hui, pour gérer nos forêts, il y a le plan national d'investissement RED+, qui sur 5 ans est estimé à 1 milliard de dollars et qui se nourrit en fait de notre stratégie nationale RED, qui vise justement à enrayer les facteurs de la déforestation, qui sont l'agriculture itinérante sur le brûlis, qui sont des besoins d'énergie, qui sont une meilleure gouvernance forestière et d'autres axes. Et ce plan d'investissement de 1 milliard a déjà pu attirer 200 millions de dollars venant d'un partenaire bilatéral qui est la Norvège. Donc maintenant, il nous faut combler le gap, c'est-à-dire 800 millions de dollars, afin de pouvoir financer ce plan national d'investissement.
Voilà, 09 97 06 49 69 ou encore le 09 97 06 63 80 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
La célébration de la journée mondiale de l'environnement intervient dans un contexte particulier avec le retrait des États-Unis et d'Amérique de l'accord de Paris sur les climats dont l'objectif est la lutte contre le réchauffement climatique. Elie Lokwa, vous êtes en Bandaka. Quelle réflexion faire de cette occasion sur la situation, à cette occasion donc sur la situation de l'environnement en RDC? Elie, bonjour et bienvenue.
Oui, allô, bonjour, messieurs les journalistes, bonjour à l'invité. D'abord, je vais commencer d'abord à recadrer la chose. La journée mondiale de l'environnement nous rappelle quelque chose d'important. C'est pour une prise de conscience que la population avait pris, c'est-à-dire les populations dont l'État jadis ne comprenaient jamais et absolument sur l'importance de l'environnement. Si on date de 1972, si je ne m'abuse pas, que les États, les communautés, les collectivités se sont rendues conscientes de ce que l'environnement produit pour la survie de l'humanité, car l'environnement c'est un réservoir de ressources. L'environnement c'est le porte-bonheur de l'humanité. L'environnement c'est un cadre de vie. Alors, la protection de l'environnement a pour objectif, c'est pour conduire les États au développement durable. Le développement durable, c'est pour permettre que les étapes soient réservées à la génération future, une quantité et qualité des ressources. C'est parce que pour vous dire clairement que lorsque les États-Unis se retirent de l'accord de Paris, là, nous, la RDC, comme le berceau des écosystèmes, nous allons regretter. C'est parce que lorsque nous réalisons même l'accord de Paris, il y a trois conditions. C'est-à-dire, la première des conditions, c'est pour atténuer les gaz à effet de serre au-dessous de 2 degrés ou 1,5 degrés Celsius. Et la deuxième condition, les pays pollueurs, donc les pays qui polluent la nature, doivent réparer la pollution. C'est ça, vraiment la quintessence de l'accord de Paris. Lorsque nous faisons les analyses, si les grands pays, parmi les blocs des pays le plus développés du monde et les pays les plus pollueurs de la planète, nous allons citer les États-Unis, qui ont détenu de ces activités anthropiques. Là, on doit comprendre, on va faire la part des choses. Les États-Unis est qualifié le grand pays le plus pollueur de cette humanité. Et lorsqu'il refuse, il requise même catégoriquement de ne pas respecter ou apposer la signature sur l'accord de Paris, c'est quelque chose que nous devons qualifier comme un rapport de force. Pourquoi je l'ai dit?
Oui, est-ce que Eli, est-ce que vous pensez que ce retrait pourrait au fait désorienter un peu les différentes stratégies ou les différents projets de la RDC quant à la lutte contre le réchauffement climatique, parce que selon certains experts, la RDC allait être parmi les bénéficiaires de ce fonds vert. Est-ce que vous pensez comme eux?
Oui, il faut donc. Ici, je dis quoi? Donc, si les États-Unis se retirent de cet accord, ils sont les plus grands pollueurs. Et donc, lorsque les États-Unis doivent toujours polluer la nature.
Oui, qui avait souscrit de contribuer pour la lutte contre le réchauffement climatique à 30% du montant du fonds vert sur le climat. Et maintenant, sous Barack Obama, notre invité l'a dit, il y a 1 milliard qui a été déjà déversé, donc le 10%. Le 20% qui manque actuellement, je crois que les signataires de l'accord doivent se mettre encore d'accord sur les principes. Mais en attendant, parce que ceux qui devaient être les bénéficiaires aujourd'hui, quelles sont les stratégies? Est-ce que vous proposerez par exemple à la RDC de prendre quelle dimension? Quelles sont les options qui pourraient être élevées pour, au fait, renforcer encore le mécanisme de protection de son environnement?
La protection, même si les États-Unis se veulent retirer de l'accord, nous, la RDC, nous sommes là, on doit protéger notre environnement. Les États-Unis, même le pourcentage de 30% qu'ils devaient nous envoyer, ça pourrait nous faciliter. Ça, c'est de 1. Ça pourrait nous faciliter d'abord. 1. Pour la création des aires protégées, pour permettre une meilleure protection de la faune et de la flore. Mais lorsque les États-Unis se retirent de l'accord, ça serait encore une catastrophe dans l'humanité, une catastrophe dans notre pays. Parce que nous qui abritons une potentialité énorme de la biodiversité, et nous nous sommes là pour protéger la forêt, mais lorsque les États-Unis se méfient de l'accord, c'est encore une grande menace contre notre État.
Notre environnement. Merci beaucoup.
Dans ce contexte, là, nous devons regretter, et puis on va tout simplement accepter. Et puis, ou bien que tout le monde dans notre pays, nous devons nous tous participer à la destruction de l'environnement, parce qu'on ne peut pas protéger la forêt, sans pour autant que les autres États acceptent l'accord de Paris. C'est encore une menace totale, ce que nous regrettons. Une deuxième position, c'est ce que je voulais dire pour l'instant.
Merci beaucoup, Eli. Donc, il n'y a pas d'opportunité dans ce retrait. Il y a beaucoup plus de menaces. Alain Bolodjoa partage tel cet avis. Alain Bolodjoa, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour, Radio Capi. Bonjour à votre invité. Bonjour à tout le monde.
Alors, quel regard avez-vous sur la protection de l'environnement à RDC et quelles sont les conséquences que cela a sur la qualité de vie des humains aujourd'hui? Et en troisième palier, est-ce que ce retrait des Américains de l'accord de Paris pourrait-il avoir de conséquences sur la protection de l'environnement à RDC?
Non, ce qui est vrai dans la question environnementale, il y a deux postulats. Le premier, c'est la préservation de la biodiversité, que nous voyons la protection de nos richesses fauniques et floristiques. Mais deuxièmement, il y a aussi l'aspect climatique, où il y a le dérèglement climatique. Et c'est ce qui a poussé les États à s'y intéresser. La question environnementale n'a pas commencé aujourd'hui. Des études qui ont été faites Il y a des déclarations qui ont été faites, mais ce qui est important, nous devons savoir que même les scientifiques n'ont pas encore été, ne sont pas encore unanimement d'accord sur l'implication des émissions anthropiques des gaz à effet de serre en tant que responsable du réchauffement climatique. Donc c'est déjà un débat qui a existé et qui existe au niveau international. Alors les États-Unis, sachant que la question du réchauffement climatique peut avoir des incidences sur leur place en tant que puissance économique, et bien dans le choix qu'ils opèrent, ils préfèrent en évidence leur surimmunance sur la dimension économique et sur la dimension écologique. Mais les autres États tels que la France et les autres pensent que nous devons préserver l'environnement, pensent que le résultat des études menées par GEPC, le groupe d'experts intergouvernemental, certifie en fait la responsabilité de l'homme. Mais nous, au niveau de la République démocratique du Congo, apparemment nous faisons des choses par mimétisme. Nous n'arrivons pas à intégrer les vrais enjeux. L'enjeu aujourd'hui, pour la Chine, c'est la dimension économique, c'est-à-dire où la Chine privilégie son positionnement dans le monde économique.
Leadership économique.
Ce qui fait que la Chine continue à polluer, mais elle est prête aujourd'hui, en contrepartie, à verser un certain montant pour justifier ces émissions anthropiques, ces émissions de gaz à effet de serre. Et mais pour les États-Unis, tout le monde sait que les États-Unis privilégient la préservation de leur standing de vie. Ce n'est pas l'environnement, en fait.
Alors juste une question. Oui, allez, juste une question.
Pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire vous leur demandez de ne pas produire suffisamment et de ne pas garder leur position.
Alors, Alain, si nous ramenons un peu le débat sur chez nous, est-ce que on peut dire aujourd'hui au regard, parce que tout le monde y avait beaucoup d'attentes par rapport à l'accord de Paris, beaucoup de Congolais comme d'autres Africains voulaient voir vraiment cet appui par rapport à ce fonds, aider en tout cas à la protection de l'environnement et renforcer les mécanismes de lutte contre le réchauffement climatique. Mais alors, est-ce que chez nous on peut dire que avant que cela n'arrive, il y a déjà eu des avancées sur le plan normatif et que cela pourrait permettre qu'on puisse garder quand même la ligne et aussi atteindre le résultat?
Effectivement, il y a des efforts qui ont été fournis au niveau interne. Bien que moi, personnellement, je n'ai pas salué cette démarche ou cette approche. Oui. Déjà en 2002, on a eu le code forestier, la loi portant le code forestier. C'est tout simplement parce qu'on avait intégré cette dimension environnementale. On a eu à renforcer certaines dispositions de la Constitution. Il y a eu d'autres lois qui ont été adaptés tout simplement parce qu'on voulait se conformer à cette réalité. Et ce qui est aussi vrai, nous devons savoir que la question ou le débat est plus à une portée internationale, mais malheureusement la communauté internationale ne prend pas en compte la nécessité de développer la République démocratique du Congo. Nous prenons le protocole de Kyoto. Lorsqu'on a débattu sur la problématique du réchauffement climatique, on a prévu des mécanismes de flexibilité. Ces mécanismes de flexibilité ont pu avantager le même pays pollueur. Et aujourd'hui, les gens ont salué l'avènement de
l'accord de Paris.
De l'accord de Paris. Mais en réalité, l'accord de Paris ne fait que sécuriser le pollueur, parce qu'en principe, on devait avoir un caractère contraignant dans cet accord, mais on n'a pas senti ce caractère contraignant. Et les États-Unis qui n'ont pas ratifié le protocole de Kyoto, bien qu'étant signataire, aujourd'hui, tout ce qu'ils ont fait là, c'était tout simplement donner une bonne image.
Mmh. Merci beaucoup Alain Bolodjoie. Voilà, merci beaucoup Alain Bolodjoie. Merci beaucoup Alain. Je reviens à vous, monsieur Tossi. Pratiquement, on se rend compte qu'aujourd'hui, et c'est vrai, c'est comme s'il y a eu du bluff dans cette affaire de l'accord de Paris, mais quelque part aussi, les Congolais attendaient beaucoup de l'accord de Paris, mais est-ce que cela n'est pas rêvé là où il fallait pas? Pour nous les Congolais, au fait ramasser aussi, c'est que...
Il n'y a pas de bluff, il y a une réalité. Aujourd'hui, le changement climatique est un phénomène que l'on ne peut pas nier. Et je pense qu'on ne peut pas jouer à l'autruche et simplement mettre notre tête dans le sable en espérant que le danger va passer. Il est important de pouvoir nous engager au niveau international, dans les fora où ces discussions se tiennent, pour essayer justement de faire de porter haut les priorités des Congolais et essayer de nous assurer que tout accord qui est négocié puisse tenir compte de nos intérêts. Donc rapidement, juste pour dire que d'abord, l'ami de Mbandaka, je crois, il faut lui dire que le plus gros émetteur, c'est la Chine. Aujourd'hui, la Chine émet environ 11 gigatonnes, donc 11 000 millions de tonnes métriques de CO2, tandis que les États-Unis émettent environ 6 gigatonnes, de dioxyde de carbone. Donc, la Chine représente environ 29% des émissions globales, tandis que la Chine représente environ 15% des émissions, les États-Unis 15%. Donc la Chine 29%, les États-Unis 15%. Maintenant, le problème, c'est un problème plutôt qui se situe au niveau de l'équité. C'est-à-dire que, historiquement parlant, les États-Unis étaient un plus gros émetteur. Donc ce problème du climat a plus été causé par les États-Unis depuis la révolution industrielle, ainsi que les autres pays développés, que la Chine, qui aujourd'hui effectivement commence à causer problème. Autre chose également pour parler de la question d'équité, c'est regarder les émissions par tête d'habitant. Un Chinois aujourd'hui émet environ 7 tonnes de dioxyde de carbone, tandis qu'un Américain émet environ 17 tonnes. Donc pourquoi l'Américain a droit à un plus grand espace atmosphérique pour assurer son train de vie? Effectivement, le collègue Bolodjoie, l'ami Bolodjoie, a dit que les États-Unis voulaient préserver ce train de vie. C'est-à-dire pour avoir une grosse voiture, avoir une grande maison climatisée. Et un des présidents américains passés, George Bush pour ne pas le nommer, avait dit le mode de vie des Américains n'est pas négociable. Alors, là où M. Bolodjoie se contredit un peu, c'est qu'il dit que l'accord de Paris n'est pas contraignant. Alors, pourquoi les États-Unis quittent un accord qui représente aucune contrainte? Donc, c'est pour simplement mettre en exergue l'attitude un peu hypocrite.
Mais le fait que le débat soit beaucoup plus international, est-ce que ça nous éloigne pas des options à pouvoir lever pour la protection de notre environnement par rapport à nos réalités aussi?
Oui, mais le problème, c'est que cet espace atmosphérique est commun. Il s'agit d'un problème insécable. Si jamais moi j'émets des émissions ici, elles vont aller affecter mes voisins, l'Angola, le Rwanda, le Congo-Brazza. Absolument. Donc, il faut qu'on règle ce problème ensemble. Parce que si le Congo-Brazza a une politique vertueuse au niveau environnemental, au niveau de sa forêt, eh ben, le problème, c'est que moi, si je ne fais pas de même, le Congo-Brazza sera quand même affecté. Donc, il faut qu'on trouve une solution commune, une solution au niveau international. Alors, pour en revenir encore aux États-Unis d'Amérique, le président Trump, en fait, a pris cette décision un peu pour satisfaire la consommation intérieure au niveau des États-Unis. Pas vraiment pour nous, au niveau international, puisque toute la communauté internationale est remontée. Aujourd'hui, il a été à contresens du consensus multilatéral. Et même aux États-Unis, la majeure partie de l'opinion publique n'est pas d'accord. Ce qu'il a fait, c'était satisfaire certains intérêts économiques particuliers, des industries du charbon, du pétrole. Aujourd'hui, les hommes d'affaires américains ne sont pas contents de cette décision. La majeure partie de son administration n'est pas contente de cette décision. Même le Pentagone, son département donc de la défense, a dit que le changement climatique était un danger pour les États-Unis, simplement parce que c'est un multiplicateur de conflits. Or, les États-Unis ont des troupes un peu partout à travers la planète, et les troupes américaines peuvent être mises en danger à cause de ce changement climatique. Donc, il faut qu'on gère ce problème de manière conjointe. Alors, aujourd'hui, il faut comprendre que l'accord de Paris, il s'agissait effectivement d'une démarche différente du protocole de Kyoto, puisque le protocole de Kyoto inscrivait des objectifs de réduction des émissions qui étaient ensuite imposés aux pays. L'accord de Paris, c'est une démarche au contraire, où les pays inscrivent ce qu'ils décident de faire. Donc les États-Unis avaient dit que d'ici 2025, ils allaient réduire leurs émissions de 26 à 28% par rapport à l'année de base 2005.
Est-ce qu'il va falloir pour les États, par exemple africains, de repenser le mode ou encore le modus vivendi de la protection de l'environnement par rapport à cette question ou par rapport à ces retraits? Est-ce qu'il peut pas déjà commencer à réfléchir sur des stratégies?
Je vais y arriver, mais je voulais juste dire que les États-Unis vont de toute façon faire ce qui est inscrit dans l'accord de Paris. Donc il n'y avait aucune raison de quitter l'accord, à part vouloir faire un haut coup de communication et voilà.
Ben alors, donc, en attendant,
alors maintenant, dans l'entretemps,
quelle attitude prendre, notamment pour la RDC?
La nature a horreur du vide. Si les États-Unis se retirent, nous allons occuper cet espace. La RDC va également faire partie du peloton du peloton donc des pays faisant montre d'ambition, et nous allons nous engager. Et il n'y a pas de mimétisme, bien au contraire. Les États-Unis devaient réduire d'ici 2025 leurs émissions de 2005 de manière absolue. Nous, en RDC, tenant compte de nos objectifs de développement, la priorité des priorités pour le gouvernement de la RDC, ce n'est pas sauver la planète, c'est réduire la pauvreté et créer les conditions d'une croissance qui soit inclusive. Eh ben, la RDC, elle, a décidé entre 2020 et 2025, pas avant, de réduire ses émissions de 17%. Non pas de manière absolue, mais de manière relative. C'est-à-dire que la courbe des émissions de la RDC qui sera croissante, de par notre croissance démographique, de par notre croissance économique, va être réduite d'intensité de 17%. C'est spécifique à la RDC, il ne s'agit pas de mimétisme, ce n'est pas calqué sur la France, sur les États-Unis ou un autre pays. Et nous, la RDC, nous avons une réalité qui nous est spécifique, nous avons un potentiel qui peut contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous disons, nous allons faire cet effort dès lors que nous avons un accompagnement en termes de financement, de transfert de technologie.
Voilà, parce que c'est là en fait.
Et de renforcement de capacité.
Voilà, le nœud du problème. Ouais. Alors, on va prendre Maître Gervais qui est à Calémie, Docteur Vasco à Colosi et Fina à Kinshasa. Maître Gervais, vous êtes avec nous, bonjour. Maître Gervais, vous êtes avec nous à Calémie. Docteur Vasco à Colosi, bonjour.
Bonjour, Radio Calémie.
Docteur Vasco, vous êtes avec nous. Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Bon, moi, c'est par rapport au réchauffement climatique. Le sujet nous a intéressé à la veille où les États-Unis d'Amérique s'est retiré de l'accord de Paris. Pour moi, je trouve que la RDC pouvait être parmi les plus privilégiés parce qu'il regorge un potentiel naturel qui est d'abord très très capital par la disposition des forêts équatoriales, donc les forêts ou la forêt qui est peut-être la deuxième, qui occupe la deuxième place au monde. Mais ici, en RDC, si on peut imaginer, les bois pour la construction, les bois pour la cuisson des aliments, les bois pour le cercueil, pour les meubles, donc tout ce que la RDC peut utiliser, c'est les bois. Alors que la communauté internationale qui dispose des usines de fabrication des métaux, des usines de fabrication des meubles, qui pourrait peut-être nous aider à électrifier notre pays ou à utiliser d'autres matériels que le bois, ceci pourrait peut-être contribuer à sauvegarder le potentiel que nous dégageons dans notre pays. Imaginez-vous si peut-être le rapport de l'expert des Nations Unies qui a donné environ quelques millions, j'ignore le chiffre, pour 2 ans, sont en train de disparaître dans le pays. Alors imaginez-vous si peut-être on pouvait aller toujours comme ça pour faire 50 ans, 100 ans. Moi, je pense que si la communauté internationale ne s'implique pas dans l'électrification de la RDC ou dans l'exportation d'autres matériaux que les bois qu'ils sont en train d'utiliser, ça serait très grave d'ici l'an 2030 ou 2050. C'est pour ça que moi, j'ai demandé peut-être aux États-Unis de se rassurer encore à l'accord de Paris, et de voir
oui, docteur Vasco,
où la communauté internationale peut contribuer à sauvegarder
la RDC. Oui, docteur Vasco, quel regard avez-vous sur le niveau de protection de l'environnement à RDC sur le plan politique et sur le plan normatif?
Non, sur le plan politique, moi je trouve que la politique n'est pas du tout définie. Parce qu'il pouvait y avoir une politique bien définie qui pouvait peut-être marcher donc avec d'autres ministères, par exemple l'énergie, par exemple d'autres ministères, que peut-être que ça pouvait contribuer à sauvegarder le fort que nous gardons. Mais à l'heure actuelle, moi je ne trouve pas que les politiciens ou la politique de la RDC s'intéressent beaucoup plus à sauvegarder le fort que nous avons.
Merci beaucoup docteur Vasco. Pour vous, vous sentez qu'il y a un déficit au niveau de la conjonction des efforts entre les ministères ou encore des acteurs qui sont impliqués, parce qu'il s'agit là de questions transversales. Fina, vous êtes à Kinshasa, bonjour et bienvenue d'un parole aux auditeurs.
Bonjour Gilles.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui, ma contribution à ce niveau du débat, moi je n'aimerais pas beaucoup plus s'acharner à ce que Donald Trump en charge de faire, parce que moi je sais qu'avant, même lorsque cet accord, les États-Unis n'ont pas encore envisagé de se retirer, bien, nous, à l'interne, ici, en RDC, on a continué, c'est-à-dire, on n'a pas un seul jour pensé à la protection de l'environnement.
Voilà, on a des petits soucis avec votre ligne finale, je ne sais pas, vous êtes, vous sortez comme dans une caisse, est-ce que vous ne pouvez pas vous déplacer un tout petit peu, là?
Oui, vous m'entendez maintenant?
Maintenant, c'est plus ou moins, donc vous pouvez aller, on va voir.
D'accord,
si
moi je voulais surtout parler de cette politique de la protection de l'environnement au niveau interne, parce que même avant que les États-Unis envisagent de se retirer de cet accord, nous, on n'a jamais protégé notre environnement. Je vais prendre, par exemple... à titre illustratif, au Katanga, où j'ai déjà été, eh bien, on n'a jamais protégé l'environnement. Les sociétés minières, par exemple, qui sont au Katanga, continuent de faire usage de produits toxiques à des fins minières pour exploiter les minerais, alors qu'ils sont en train de polluer l'environnement.
Voilà, donc si je comprends bien, Fina, pour vous, le taux de protection de l'environnement, pour les cas, par exemple, de Katanga, comme vous l'avez dit, vous sentez qu'il est, il est sensiblement faible.
Il est tellement faible au Katanga, ici à Kinshasa, même partout en RDC. Et je peux vous le prouver, par exemple.
Merci beaucoup, Fina. Maître Gervais, vous nous avez également rejoint. Vous êtes à Calémie, bonjour.
Bonjour, monsieur Gir, bonjour à l'invité, bonjour à mes parents, Samuel Ganza François, Mange Josephine, qui me suivent en ce moment.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui, à mon humble avis, au XXe siècle, comme nous le savons, la protection de l'environnement est devenue un enjeu majeur, en même temps que c'est pour éviter de sa dégradation, à la fois globale et locale, à cause des activités humaines. La préservation de l'environnement étant l'un des trois piliers du développement durable, ceci le septième des huit objectifs du millénaire pour le développement considéré par l'ONU comme crucial pour la réussite des autres objectifs énoncés dans la déclaration du sommet du millénaire. Et par rapport au retrait des États-Unis dans l'accord pour la Convention de Paris, rien ne pourra inquiéter la RDC de pouvoir garder sa position par rapport au de l'environnement. Et sur le plan interne, moi je dirais qu'en République démocratique du Congo, c'est un temps pour nous de prendre la prise de conscience pour rendre la création de différentes structures de base en renforçant la capacité des agents chargés de l'environnement. Par exemple, dans les domaines de l'environnement, il y a des différents ministères à tous les niveaux. Et sur le plan national, mobiliser les gens, mobiliser la population pour avoir des...
Voilà, on a des petits soucis avec votre ligne, Maître Gervais. Je crois que l'essentiel a été dit. Vous avez dit que la protection de l'environnement, c'était un enjeu très, très, très majeur. Et en ce moment que les États-Unis se retirent de l'accord de Paris, il va falloir que les gens pensent déjà à la création des structures des bases à l'interne pour arriver, au fait, à accompagner, au fait, cet accord de Paris, parce que la RDC est également signataire de cet accord. Merci beaucoup. Alors, on va prendre un expert en environnement. Jean Desdieu, qui est à Kikwit. Jean Desdieu, vous êtes avec nous, bonjour.
Ouais, bonjour monsieur journaliste, bonjour à tous ceux qui sont présentement branchés à la Radio Okapi.
Quel est votre avis par rapport à cette thématique?
Ouais, je vais quand même donner quelques réflexions par rapport à l'émission. Bien que cela a été l'accord de Paris qui parle juste pour la protection de l'environnement, je crois que dans notre pays, il y a un problème. Il y a un problème, et puis, maintenant qu'on est en train de célébrer cette journée, nous, dans notre pays, nous avons encore des préalables ou des choses à laquelle nous devons améliorer dans notre pays pour l'environnement de la RDC. Quand on définit même la définition de l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Alors, tout ce qui nous entoure, nous devons les protéger. Mais dans le pays où nous sommes, à laquelle où on n'a même pas pris en compte comment former le personnel qualifié qui doivent normalement, techniquement, conserver et protéger notre environnement, nous ne pouvons pas célébrer même cette journée. Alors, vous voyez même l'environnement de notre forêt, de notre pays, mais cela n'est pas protégé, il y a des déforestations. et la pollution de l'environnement même.
Voilà, on a vraiment des soucis avec votre ligne, Jean de Dieu.
Oui, vous voyez, le faire.
Voilà, Jean de Dieu, Jean de Dieu, on ne pourra pas vous garder le plus longtemps possible.
Est-ce qu'il y a des mesures techniques?
Jean de Dieu, on ne saura pas vous garder le plus longtemps possible parce que là, c'est vraiment une mauvaise qualité. Nous revenons à notre invité, Monsieur Tossim Panou, négociateur en chef pour la Convention climat des Nations Unies et membre du conseil d'administration du Fonds Vert. Voilà, 09 97 06 49 69 ou encore 09 97 06 63 80 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Voilà, Monsieur Tossi, nous revenons à vous. Ben, après avoir écouté les uns les autres, il y a une question qui se dégage. Est-ce qu'il y a-t-il une crainte que le refus du président des États-Unis, deuxième principal émetteur de COD au monde, ait eu un effet dissuasif quant à l'investissement de certains pays africains, notamment ceux qui n'ont pas encore ratifié l'accord? Bon, voilà, la RDC a déjà eu la chance de le faire, mais bon, voilà, il y a encore beaucoup d'inquiétudes également.
Oui, donc juste pour clarifier les choses, la RDC n'a pas encore ratifié l'accord. Mmh. La RDC a signé l'accord, mmh, mais ne l'a pas encore ratifié. Je présume que la ratification ne serait tardée. Alors, bon, tout pays est souverain et tout pays peut décider de la démarche à initier. Aujourd'hui, pour moi, ce problème du climat représente un problème, il est clair, et on peut considérer que ça reste un problème. Ou alors on peut saisir les opportunités qui viennent avec ce problème. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a des financements au niveau international, il y a du transfert de technologie qui est disponible, il y a du renforcement des capacités qui est également disponible pour nous aider à gérer cette question. Et donc pour moi, il faut saisir cette opportunité pour voir justement comment faire face à ces effets néfastes du changement climatique. Il y a bien entendu la démarche du Nord vers le Sud, puisque les pays du Nord sont ceux qui ont créé ce problème. Et nous, pays du Sud, nous en sommes très peu responsables. Et il y a également la coopération Sud-Sud aujourd'hui qui existe. Aujourd'hui, ce retrait des États-Unis, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse de la place. Cette place, ce leadership mondial va être assumé par des pays comme la Chine, l'Inde, par l'Union européenne. Aujourd'hui, la Chine a décidé d'investir 360 milliards de dollars dans les énergies renouvelables au cours des deux prochaines années et va générer 13 millions d'emplois. C'est une opportunité économique qui est créée pour la Chine. Et c'est également une opportunité pour nous de renforcer nos relations Sud-Sud afin de pouvoir avoir des solutions au niveau des énergies renouvelables. Tout à l'heure, un des intervenants a parlé du faible taux d'accès des Congolais à l'électricité qui fait qu'ils se tournent vers la forêt. Effectivement, si 10% seulement de 85 millions de Congolais ont accès à l'électricité de manière régulière, 90% de 85 millions de Congolais iront vers la forêt. Or, si nous pouvons avoir accès à des énergies renouvelables, je ne parle pas de Inga 3, du grand Inga, hein, ces grands projets-là pourraient éventuellement servir à vendre de l'électricité à l'extérieur. Pourquoi? Parce que sur le reste du territoire national, il y a du potentiel en énergie hydroélectrique. Il y a du potentiel pour récupérer le gaz méthane au niveau du lac qui vous génère de l'électricité. Il y a du potentiel pour faire de la géothermie, pour faire de l'éolien, pour faire du solaire de manière décentralisée. Il ne faut pas produire de l'électricité à Inga et l'emmener 2000 km plus loin pour donner l'électricité à d'autres personnes. Ces personnes-là peuvent avoir de l'électricité au niveau local. Et si jamais on peut avoir accès à des solutions en termes de nouvelles technologies grâce à ce problème qui est créé par le changement climatique, eh ben le changement climatique va nous emmener des solutions. Je voulais également dire que nous ne restons pas les bras croisés à nous inscrire dans une posture de victime. Non. En RDC, il y a plusieurs textes légaux qui existent, plusieurs lois qui portent sur l'environnement.
Mais pourquoi la ratification tarde à venir? C'est ça le problème aussi.
Écoutez,
parce que quand on dit, tout le monde est d'avis que la RDC devait être parmi les bénéficiaires, on signe, on ne ratifie pas.
Nous ne sommes pas les seuls. Beaucoup de pays ont signé à travers leur ministre des Affaires étrangères, leur ministre de l'environnement. Nous, la signature a été faite par le chef de l'État. Donc cela dénote de l'appropriation de cette question au niveau le plus élevé de l'État. Maintenant, il faut que le gouvernement fasse son travail. Il faut que cette question soit inscrite à l'ordre du jour des conseils des ministres. Il faut ensuite que cette question soit inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Or, vous savez que l'agenda au niveau de l'Assemblée nationale est un agenda extrêmement remplie, il y a le budget qui doit être donc qui était en discussion, il y a également d'autres questions politiques importantes, il y a
des
élections.
Est-ce que ce retard peut être préjudiciable?
Écoutez, ce retard ne devrait pas être préjudiciable parce que la RDC a montré qu'elle est partie prenante de cet accord. Il faut maintenant simplement finaliser les choses au niveau législatif. Et nous ne sommes pas les seuls. 195 pays ont signé. Il y en a environ 140 qui ont ratifié. Donc nous sommes malheureusement dans ce groupe de 40 pays où il faut nous assurer que nous allons mettre les bouchées doubles pour y arriver. Mais cela ne veut en rien dire que la RDC ne comprend pas quel est l'enjeu majeur que représente cet accord. Nous continuons à être partie prenante et j'ai parlé tout à l'heure de notre stratégie nationale RED+, qui vise à réduire les émissions liées à la déforestation, de notre plan national d'investissement qui donc porte sur $1 milliard sur 5 ans. Cela dénote du sérieux qu'au niveau du gouvernement nous accordons à cette question. Je voudrais également dire que les États-Unis, en quittant l'accord, c'est une décision politique, mais dans la pratique, on ne peut quitter l'accord de Paris qu'après 3 ans après son entrée en vigueur. Donc l'accord de Paris est entré en vigueur le 4 novembre de l'année dernière. Les États-Unis ne peuvent écrire de manière officielle pour quitter l'accord que en 2019. Et il faudra attendre un an avant que les États-Unis sortent véritablement de l'accord. Donc les États-Unis sont encore dans l'accord pendant les 4 prochaines années. Donc effectivement, il y a eu cet effet d'annonce par le président Donald Trump, mais les États-Unis continuent à rester dans l'accord. Et nous continuons donc à définir les règles de cet accord dans la négociation sur le climat. Et nous espérons que nous finaliserons ces règles en 2018, afin effectivement que quand l'accord entre en application, à l'horizon 2020, toutes les règles soient finalisées. Alors, et la RDC participe de manière active pour nous assurer que ces règles ne seront pas des règles qui vont obérer notre développement, qui vont ralentir notre recherche de croissance inclusive et de réduction de pauvreté.
Alors, si vous le permettez, on va prendre les derniers auditeurs qui nous ont rejoints à ce niveau du débat. Il y a Steve qui est à Kinshasa, Général Valérie à Kindu et Albert à Kananga. Et nous allons terminer cette troisième partie de l'émission et nous reviendrons à vous, Monsieur Tossi, pour la conclusion. Alors, Steve, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre contribution après avoir écouté les uns et les autres? Est-ce que vous partagez l'avis que la protection aujourd'hui de l'environnement, la RDC, elle est faible?
Je suis d'avis que la protection de l'environnement dans notre pays, elle est faible. D'ailleurs, il faut se poser la question, est-ce qu'il existe-t-il une politique nationale de la gestion de l'environnement? Pas une politique théorique, mais une politique pratique.
Oui, notre invité parlait tout à l'heure de plan d'investissement avec autour de $1 million sur 5 ans et aussi le programme...
Un milliard,
excusez-moi les lapsus. Et puis les RED+, bon voilà, donc il y a autant de stratégies pour arriver.
Voilà, j'aimerais aborder cette question ici en deux points. Voyons d'abord le problème qui se pose avec le retrait des États-Unis. On a l'impression comme si les pays africains, et parmi lesquels notre pays, la République démocratique du Congo, on a plus misé sur ces contributions-là, sur ces participations des pays développés par rapport à cet accord. Alors moi, je me pose la question, est-ce le premier financement dans le domaine de l'environnement qui nous provient de ce pays-là? Pas du tout. Il y en a eu plusieurs. Et si on pose la question aujourd'hui à ceux qui gèrent le pays, tous ces financements-là ont servi à quoi dans le pays? On va se rendre compte que ces financements n'ont servi à rien à part enrichir certains individus. Alors on s'est dit, revenons maintenant au niveau national. Est-ce que réellement au niveau national, y a-t-il une politique telle que je l'ai dit? Pas du tout. Il n'y a pas une politique. Alors moi, je me dis quoi? Au lieu de se concentrer à se dire, voilà, il y a des milliards que les États-Unis devaient ramener et que ces milliards-là ne viendront pas, on devrait plutôt réfléchir pour se dire, par rapport à nos propres potentialités, parce qu'on a trop vanté depuis des années, on vante toujours les potentialités de notre pays. Par rapport à nos potentialités, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour valoriser ces potentialités et que celles-ci servent réellement au développement, servent réellement au bon fonctionnement et à la préservation de l'environnement de notre pays.
Merci
et
beaucoup,
par rapport à ça, j'ai fait un message. J'ai dit ceci. Il y a des spécialistes formés, environnementalistes dans ce pays. Est-ce que ceux qui vont signer ces conventions, est-ce ceux qui vont représenter le pays, est-ce ceux qui gèrent tous ces projets en rapport avec l'environnement, sont-ils réellement des spécialistes? Est-ce que le pays fait recours à l'université
voilà,
qui a l'expertise?
Merci beaucoup Steve, vous avez relevé ces paradoxes. Et comme pour les cas, il y a un internaute qui a posé même la question, est-ce que Tosi Panupanu, qui était, disons, aux assises de Paris, s'est-il présenté là-bas comme membre de délégation de la RDC? Selon ces informations, lui qui nous a écrit, que M. Tosi ne représentait même pas la RDC. Bon voilà, il y a autant de questions. Ingénieur Valérie, une minute aussi pour conclure avec notre invité. Ingénieur Valérie, vous êtes avec nous. Merci Steve. Hein. Ingénieur Valérie, vous êtes à Kindu. Bonjour. Ingénieur Valérie, vous êtes avec nous? Bon, malheureusement, on prend Albert plutôt de Kananga. Albert?
Oui, je suis en ligne. Bonjour, monsieur Jean-Luc. Bonjour.
Voilà, rapidement, en une minute, quelle est votre contribution?
Oui, juste pour dire que les États-Unis se retirent de cet accord de Paris juste... parce qu'ils savent c'est qu'ils visent seulement des intérêts, au fait, et sans l'un des pays pollués du monde, vous verrez qu'ils ne doivent pas accepter pour nous cet accord.
Voilà.
Et je voudrais un peu aller plus loin, M. Journaliste.
Dans notre non, pas pays, plus loin, vous avez une minute, parce qu'on conclut maintenant.
Même 30 secondes, je vous en prie.
Allez-y, prenez 30 secondes.
Oui, vraiment, nous avions entendu que les forêts disparaissent du jour au jour. Pourquoi? Où se trouve le gouvernement? Il se pose un sérieux problème de la politique
de l'environnement.
Il n'y a pas. Donc, dans notre pays, on constate que tout est lié à la politique. On ne s'intéresse pas du tout à ce qui est nécessaire et à ce qui peut donner la vie au peuple congolais.
Merci beaucoup, Albert. Merci de l'intérêt que vous accordez à cette émission. Nous terminons avec vous, Monsieur Tosi. Après avoir écouté les uns et les autres, quel est le sentiment qui se dégage par rapport aux interventions des uns et des autres? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, on n'a pas à nous lamenter, nous ne sommes pas dans le cas des victimes, et qu'il va falloir maintenant repenser et trouver des stratégies pour, en fait, le fait d'être signataire de l'accord de Paris, en attendant la ratification, mais nous devons quand même peaufiner déjà des stratégies.
Écoutez, d'abord, moi, je voudrais que ce débat soit guidé par la véracité des faits. Moi, j'étais à la COP13 de Bali en 2007, et j'ai été dans toutes les COP jusqu'à celle de l'année dernière à Marrakech, en tant que délégué de la RDC. Donc on ne peut pas dire que je n'étais pas à ces endroits-là où ces grandes décisions étaient prises. Maintenant, effectivement, il y a un travail à faire. Et moi, j'ai aimé l'une des premières interventions qui a été faite au cours de cette émission par l'un des auditeurs, parce qu'il faut en fait qu'il y ait une espèce de civisme environnemental. Il faut que tout le monde participe. Ce n'est pas l'affaire du gouvernement, ce n'est pas l'affaire des experts, c'est l'affaire de tout le monde. Il faut que chacun, dans son quotidien, puisse s'assurer que l'environnement du pays soit préservé. Et donc, je voudrais dire que il y a un arsenal juridique, il y a un code forestier, il y a une loi portant sur l'environnement, il y a une loi portant sur la conservation de la nature, on a un fonds national pour les forêts, on a un fonds national RED, on a une agence congolaise de l'environnement, il y a tout l'arsenal juridique et tout l'arsenal institutionnel qu'il faut pour mener les actions. Maintenant, il y a parfois quelques problèmes de moyens, effectivement, et il y a parfois quelques problèmes de mise en œuvre. Mais je crois que la volonté politique est là, et le pays est juste confronté à diverses priorités qui font que l'environnement, parfois, n'est pas forcément la place de choix. Mais je crois que nous nous attelons, en tout cas, à mettre tout en œuvre afin de pouvoir attirer des financements internationaux, des financements publics, mais également des financements privés. Et si ces financements privés vont suivre les flux traditionnels de investissements directs étrangers, qui viendront dès lors qu'il y a un cadre propice à ces investissements-là? Donc moi, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Bien sûr, Paris n'a pas été construite en un jour. Donnons-nous le temps, et je prie tous les collègues qui ont versé des contributions en termes écrits à travers leur intervention, de venir nous voir et se joindre au débat afin que du choc des idées jaillisse la lumière et qu'ensemble nous pouvons trouver les conditions idoines qui puissent nous assurer que nous préserverons l'environnement de ce pays pour les générations futures. Merci.
Tosi Panupanu, nous rappelons que vous êtes négociateur en chef pour la Convention Climat des Nations Unies et membre du conseil d'administration du Fonds Vert pour le Climat. Merci d'avoir accepté notre invitation. invitation et à la prochaine pour un autre débat. Nous terminons cette émission par ici. Donc, merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de ce programme. Paul Badianyama, Pierrot Elameji, Nico Kalambay l'ont réalisé et cette émission vous a été supervisée par Martin Sebujangwe et coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. À très bientôt pour un autre numéro.